Séoul au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. L'impact du réchauffement climatique s'observe aux quatre coins des parcs nationaux en Corée du Sud. Par exemple, comme le printemps et l'été commencent plus tôt, le calendrier de la floraison est désormais avancé. Selon un rapport publié récemment par la société publique en charge de la gestion des parcs nationaux, l'éclosion des fleurs de l'adonide de l'amour et de l'arbre Lindera obtusiloba est passée d'avril à mars, soit un mois plus tôt. Idem pour les hortensias des montagnes qui l'année dernière ont fleuri au début du mois de juin contre fin juin d'habitude. Ce phénomène va dans le même sens qu'une récente annonce de Météo Corée sur le changement climatique. Selon l'établissement météorologique, les températures moyennes de la péninsule coréenne de ces trois dernières décennies sont de 1,6 degré plus élevées que celles entre 1912 et 1940. Le début du printemps et celui de l'été ont également avancé respectivement de 17 et 11 jours. Par contre, ceux de l'automne et de l'hiver ont été retardés de 9 et 5 jours. Mais le réchauffement planétaire impacte aussi la reproduction de la faune. En 2020, dans le parc national des monts Jili, les grenouilles Rana Dibowski ont pondu leurs premiers œufs de l'année le 23 janvier. Au début de l'observation en 2010, cette date était le 22 février. C'est la première fois que la ponte est observée au mois de janvier. Même chose pour les mésanges. Au mont Sobek, la première ponte des mésanges a eu lieu l'année dernière, le 28 mars en 2020, soit trois semaines plus tôt qu'il y a 9 ans. On observe le même phénomène dans les régions insulaires. Les oiseaux migrateurs, notamment les goélands à queue noire, résidant dans l'île de Hongdo, ont par exemple commencé leur rituel de reproduction, c'est-à-dire rester toute la journée sur leur lieu de reproduction, le 29 mars l'année dernière, soit la date la plus précoce sur le calendrier depuis le début de l'étude en 2011. À l'opposé, la date de tombée des premières neiges ne cesse de reculer dans toutes les réserves vertes. En 2020, elle a reculé de 23 et 21 jours au mont Jili et Solak par rapport à 2012. La hausse de température menace également certains éléments de la faune et de la flore. Les conifères, par exemple, qui vivent dans les régions de haute montagne entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. D'après les chercheurs, le dépérissement de ces arbres s'explique par le manque d'eau dans le sol, qui est en fait provoqué par le manque de neige accumulée qui normalement s'infiltre dans le sol pour former des réserves d'eau pour les arbres. Pour ce qui est des sapins de Corée, beaucoup d'entre eux ne résistent plus aux fortes pluies, désormais nombreuses et fréquentes et aux typhons. Enfin, dans l'île de Hongdo, les goélands à queue noire ont vu leur nombre diminuer à cause de la réduction de proies, telles que les anchois dans la région, une baisse qui est due à la montée des températures des eaux de surface des océans. Alors que l'été devient de plus en plus chaud dans le pays du matin clair, la ville de Goyang, dans la banlieue nord-ouest de Séoul, cherche à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Ce phénomène désigne l'élévation de température du centre-ville de 3 à 5 degrés par rapport aux zones rurales. Cela est provoqué par la chaleur artificielle produite par les climatiseurs et le bitume des routes qui absorbent le soleil. Donc afin de rendre la ville plus fraîche, la municipalité prévoit de mettre en place des installations de circulation d'eau en utilisant les eaux souterraines et les eaux de pluie. Et dans ce cadre, dans l'arrondissement de Ilsandong, un ruisseau long de 270 mètres sera construit le mois prochain. Ces berges seront tapissées de végétaux pour transformer le lieu en un havre de repos pour les habitants. Dans le ruisseau couleront les eaux souterraines fournies par les résidences des alentours. Cet espace vert devrait ainsi permettre de faciliter la circulation de l'air dans la jungle des immeubles et ainsi baisser la température à la surface du sol. Une autre initiative va être de créer un réservoir des eaux de pluie en formant de parterres de végétaux. En utilisant les plastiques jetés dans l'arrondissement de Dokyang, ce réservoir sera conçu pour pour approvisionner les végétaux en eau automatiquement. Cela n'est pas un coup d'essai pour Goyang. En avril 2020, la municipalité de la ville a déjà mis en œuvre un système de pulvérisation des eaux souterraines sur les routes qui a permis de diminuer la température, mais aussi de nettoyer la voirie. Le système est activé une fois par jour au printemps et en automne, trois fois en été et jusqu'à quatre fois lors de canicules. Un système similaire devrait également être mis en place dans l'arrondissement d'Ilsandong d'ici l'année prochaine. En décembre dernier, la ville a construit un petit étang de 7 mètres carrés pour les chats errants afin de leur fournir de l'eau propre, en utilisant les eaux souterraines qui s'échappent de la station de métro de Huajiang. La restauration des papillons en voie de disparition. Parnassius Bremeri, à Samchok, dans la province de Gangwon, a été présenté comme un exemple très réussi dans un rapport récent de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ces papillons, aux ailes blanches marquées de points rouges, vivent dans les régions de haute altitude de Corée du Sud, de Chine et de Russie. Auparavant, on pouvait les trouver aux quatre coins de la péninsule coréenne. Mais récemment, en raison du réchauffement climatique, ils sont découverts seulement à Samchok et à Huisang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Le ministère de l'Environnement l'a désigné comme une espèce en danger critique. Les papillons du genre Parnassius sont classifiés mondialement comme une espèce menacée. Ce rapport intitulé « Perspective mondiale de la conservation et du transfert 2021 » présente 69 exemples de restauration de la faune et de la flore. À propos des Parnassius bremeri, en Corée du Sud, leur nombre a diminué jusqu'à 32 en 2010. L'Institut de la conservation écologique de l'Holocène a lancé à partir de 2005 le projet de restauration qui consiste à les faire reproduire dans un labo et les relâcher dans la nature. Cependant, à l'époque, les chercheurs ignoraient encore le cycle de vie propre à ces insectes et avaient du mal à augmenter leur population. Il a fallu attendre 2011 pour que les chercheurs comprennent leur rythme de vie. En effet, ils ont trouvé des chenilles qui venaient d'éclore en décembre à moins 25 degrés et qui mangeaient des pousses de sédum. Cela leur a permis de découvrir le fait que les larves éclosent au même moment où cette plante commence à pousser. Lorsque les papillons pondent en mai et juin, les chenilles passent l'été à l'intérieur des œufs comme s'ils hivernaient. En effet, les œufs et les chenilles de ces papillons peuvent survivre respectivement jusqu'à moins 47 degrés et moins 35 degrés. Cette découverte a permis aux chercheurs d'accélérer la reproduction de cette espèce et en 2016, ils ont vérifié qu'au maximum 1844 papillons vivaient dans la ville de Samchok. Ils ont également découvert qu'un papillon vit 3,59 jours en moyenne et 11 jours au maximum et qu'il peut se déplacer jusqu'à 5,6 km. En dehors de ce papillon à points rouges, l'Institut mène de multiples recherches sur plus de 800 espèces d'insectes. L'établissement a été ouvert en 1994 par le directeur Lee Kang-un, qui était journaliste à l'époque. Celui-ci, qui travaillait dans le domaine de l'écologie, s'est passionné pour les insectes et s'est finalement reconverti pour préserver la biodiversité.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 20 mai. Un projet de loi visant à inciter les entreprises à rendre publiques les raisons d'un refus d'un candidat à l'embauche vient d'être déposé par Choi Gi-sang, député du Minju, la formation au pouvoir. Celui-ci aura pour but de fournir des données suffisantes aux demandeurs d'emploi sur le processus de recrutement. Cela devrait ainsi leur permettre de mieux préparer leur candidature en améliorant leurs points faibles. D'après le texte, les candidats qui n'ont pas été sélectionnés pourront demander les raisons aux recruteurs, et ceux-ci devront envoyer une réponse en moins de 2 semaines. De son côté, le ministère de l'Emploi et du Travail mènera des enquêtes chaque année pour faire un état des lieux auprès des entreprises qui emploient plus d'un certain nombre de travailleurs. Les employeurs qui enfreindront la loi ou qui refuseront de participer à l'enquête seront inscrits sur une liste qui sera dévoilée au public. Selon un responsable, au début, il a été envisagé d'imposer une amende aux sociétés violant la législation. mais la sanction a finalement été réduite afin d'éviter de mettre trop de pression sur les entrepreneurs. Quoi qu'il en soit, le projet de loi devrait être salué par les chercheurs d'emploi désorientés qui ne reçoivent quasiment jamais de retour après un entretien. Pourtant, certains craignent que ce dispositif alourdisse la charge administrative des entreprises et par conséquent réduise les recrutements en nombre. À en croire un responsable de l'Institut des recherches économiques de Corée, le nombre d'employés en charge des ressources du personnel est limité. Et si ce texte est adopté, les grandes entreprises devront justifier leurs décisions à plusieurs dizaines de milliers de candidats. Selon un employé d'une moyenne entreprise, dans sa firme, seuls un ou deux salariés s'occupent de l'ensemble du processus de recrutement pour lequel plusieurs milliers de jeunes déposent leur candidature. La proposition de loi ne reflète donc pas la réalité. Un autre souci ? Les entreprises peuvent durcir les critères d'admission lors de l'évaluation des CV ou des examens d'aptitude en vue de faciliter la rédaction des raisons de l'élimination. Car si les candidats sont éliminés avant de passer un entretien, les firmes n'auront plus qu'à écrire « qualification en dessous des critères requis » ou « note insuffisante ». En 2015, Shin Kyung-min, un ancien député du Minju, avait déposé un projet de loi similaire. Mais celui-ci avait été rejeté en raison de l'opposition du monde des entreprises et de l'indifférence du milieu politique. Le rapport de l'étude du texte affirmait que l'objectif était pertinent, mais que cette nouvelle loi risquait d'alourdir les tâches administratives des employeurs. La Corée du Sud compte de plus en plus d'étudiants étrangers qui étudient la langue et la littérature coréenne, un phénomène dû à la montée en popularité de la Hallyu, la vague coréenne représentée notamment par la K-pop et les séries télévisées. Selon le service des statistiques de l'éducation de Corée, l'année dernière, leur nombre s'est élevé à 1683 contre 1209 en 2011. Ils représentent 39% de l'ensemble des étudiants dans ce département. À l'Université nationale de Séoul, 41 étudiants sur 115 étaient des étrangers issus de 18 pays différents, dont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et la Finlande. Une étudiante en doctorat qui vient d'Indonésie s'y spécialise dans la littérature moderne. Elle a fait des études coréennes avant de venir dans le pays du matin clair. Et selon elle, un des avantages d'étudier ici est de pouvoir se rendre elle-même dans les endroits apparus dans les romans sud-coréens. Après avoir obtenu son diplôme, elle compte regagner son pays natal pour devenir professeure en études coréennes. Auparavant, elle était ravie quand elle croisait ses compatriotes à la fac, mais désormais ils sont tellement nombreux que c'est devenu ordinaire. Une Russe de 24 ans a intégré le master de littérature coréenne à l'université Goryeo, après avoir étudié la même spécialité à l'université d'État de Saint-Pétersbourg dans son pays. Toujours passionnée par les langues depuis qu'elle était petite, elle a par hasard appris le coréen avec son ami. Puis, elle a eu envie d'approfondir dans l'étude professionnelle. Selon elle, le coréen est intéressant car c'est une langue originale qui s'utilise seulement en Corée et que sa famille de langues et sa syntaxe sont différentes du russe et d'autres langues occidentales. La plupart des étudiants étrangers ont déjà fait des études sur la Corée lors de leur licence avant de s'envoler dans le pays du matin clair pour faire un master ou un doctorat. Or, certains se sont reconvertis alors que leur spécialité n'avait rien à voir avec le coréen. C'est le cas de Wang Songjin, une chinoise dont la spécialité était la publicité, mais qui a décidé de partir en Corée pour apprendre la littérature coréenne en troisième année de fac. Certains étrangers ayant étudié dans ce domaine sont devenus des vedettes sur Internet auprès des Sud-Coréens en utilisant leurs connaissances sur la Corée. Par exemple, la youtubeuse femme de l'URSS, qui dénombre plus d'un million d'abonnés, est diplômée de licence d'études orientales de l'Université d'État de Novosibirsk. Les albums illustrés sont souvent considérés comme réservés aux enfants qui ne sont pas habitués à lire. Pourtant, la maison d'édition Baekhwa Manbal propose ses livres destinés aux personnes âgées. Ces derniers décrivent la vie des habitants âgés de 50 à 90 ans, exclus jusqu'à présent du marché de l'édition. Selon la fondatrice Baekhwa Hyun, peu de livres sont attirants pour les seniors dans les librairies. Pour eux, les bouquins ordinaires sont souvent ennuyeux et les livres d'illustration sont trop enfantins. Quand ils feuillettent des magazines, cela arrive souvent qu'ils ne voient que les images. C'est pourquoi l'ancienne enseignante de collège voulait créer des bouquins faciles d'accès aux lecteurs à cheveux gris. Depuis janvier 2020, elle a publié 6 albums illustrés en la matière. Les 2 premières œuvres ont été écrites par elle-même pour s'en servir comme échantillon. Parmi elles, Le jardin de la grand-mère raconte l'histoire d'une vieille dame qui changeait souvent de femme de ménage à cause de son caractère exigeant. Un jour, elle rencontre un employé d'âge moyen qui lui fait découvrir le jardinage. Ce nouveau loisir lui permet de réfléchir sur le sens de la vie. Le livre aborde le sujet des personnes âgées vivant seules de façon familière et émouvante. Beck a affirmé avec satisfaction que sa sœur d'une 60aine d'années avait versé des larmes après avoir lu ce bouquin, car celui-ci l'a touchée en rappelant ce qu'elle a vécu elle-même. Un autre livre, « Maman et la poterie », dépeint la vie d'une mère qui a passé sa jeunesse pour l'éducation de ses enfants. Ayant du mal à trouver du plaisir dans la vie, elle commence à collecter des céramiques, ce qui donne une occasion à sa fille de découvrir le côté inconnu de sa mère. D'après l'auteur, quand on pense aux activités prisées par les personnes âgées, on parle principalement de la randonnée, du golf et de regarder la télé. Elle voulait montrer à travers ce livre que les seniors ont diverses passions pour passer du temps à lire plus qu'on croyait. L'œuvre la plus récente, Bok Soon a rêvé de devenir actrice, décrit une grand-mère qui s'approche de son rêve en surmontant ses limites. Tous les livres sont composés de seulement 50 à 70 pages pour permettre au lecteur de mieux se concentrer. Quand elle travaillait à l'établissement scolaire, Beck a mené une campagne de lecture pour apprendre le plaisir de lire aux élèves. Après avoir pris sa retraite, elle tente de faire découvrir le monde des livres aux adultes, surtout les personnes âgées qui ne lisent pas. Selon Beck, tout le monde prend de l'âge et le vieillissement est souvent accompagné de solitude. Elle a souhaité que ses livres permettent de consoler ce sentiment d'être seul avec des textes faciles et de résoudre les conflits entre familles et générations.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme cette semaine, un spectacle musical biographique qui décrit la vie d'un maître de la musique coréenne à percussion, une exposition de l'artiste Lee Chang-won et une représentation de Don Quichotte sous forme de ballet. Mais avant cela, découvrons un événement pour les enfants à l'occasion du mois de la famille. Bon plan de sortie, c'est parti! Les concerts et les spectacles destinés aux familles et aux jeunes publics se multiplient en Corée du Sud en ce mois de mai, appelé le mois de la famille. Parmi eux, un concert composé de comptines coréennes et de morceaux de musique classique qui soit sont adaptés aux jeunes oreilles, soit ont pour thème l'enfant. Il se tiendra le 26 mai au centre d'art de Daejeon. Monteront sur scène le pianiste de musique classique Park Chung-hwa et le chanteur populaire Harim. Les deux artistes interpréteront une sélection des comptines coréennes les plus connues, dont certaines ont récemment été enregistrées par le pianiste dans son nouvel album. Parmi elles se trouvent « Dans le jardin de fleurs »,« Le chemin du verger » ou encore « Bébé dans la maison sur l'île ». Seront également interprétées des œuvres de musique classique, des extraits des préludes de Chopin et de « Children's Corner » de Debussy. Un spectacle musical biographique qui décrit la vie du maître de la musique coréenne à percussion traditionnelle Kim Dok-soo sera présenté le 27 mai au Gyeonggi Art Center à Suwon. Intitulé sobrement L'histoire de Kim Dok-soo, cette pièce a été écrite par Lee Dong-yeon, professeur à l'Université nationale des arts de Corée, sur la base des entretiens qu'il a eus avec le musicien pendant un an. Dans ce spectacle, les principales étapes de la vie et de la carrière du maître du Samul Nori seront tracé à travers la musique, le chant et la danse. Kim Dok-soo y jouera son propre rôle. Né en 1952 à Daejeon, il a commencé sa carrière musicale en rejoignant la troupe de spectacle itinérante Namsadang à l'âge de 5 ans par l'intermédiaire de son père. En 1978, il a formé un groupe de musiciens dédié au Samul Nori, un genre de musique traditionnelle coréenne qui se joue avec 4 instruments de percussion. Et depuis, Kim Dok-soo et ses musiciens se produisent non seulement en Corée du Sud, mais aussi au-delà au-delà des frontières, contribuant au renouveau de la musique traditionnelle coréenne. Le musée d'art Sangok à Séoul organise une exposition de l'artiste Lee Chang-won du 7 mai au 8 août. Intitulé Parallel Worlds, cet événement présente un ensemble d'œuvres réalisées par l'artiste depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Les œuvres exposées donnent un aperçu global de son univers artistique qui joue notamment sur le décalage entre deux mondes, l'un composé des objets qu'on retrouve dans la vie quotidienne et l'autre des images qui en découlent. Par exemple, dans les œuvres de la série Image of Reflection, de la poudre de café ou des feuilles de thé dispersées sur un panneau blanc créé sous la lumière du projecteur, des silhouettes ressemblant à un paysage ou à une nature morte. Né en 1972 à Incheon, Lee a étudié la sculpture à l'Université nationale de Séoul et poursuivi ses études à l'Académie des beaux-arts de Münster en Allemagne. Et pour finir, la compagnie sud-coréenne de danse classique Universal Ballet présentera Don Quichotte du 4 au 6 juin au Centre d'art de Séoul en compagnie du Korea Coop Corps Orchestra dirigé par le chef Kim Gwang-hyun. Inspiré du roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha de l'écrivain espagnol Cervantes, ce ballet a été créé en 1869 par le chorégraphe Marius Petipa sur une musique de Ludwig Minkus. Le ballet Don Quichotte, à la fois comique et romantique, est centré sur l'histoire d'amour entre la charmante jeune fille Kitri et le barbier Basile, qui connaît un dénouement heureux grâce à l'aide de Don Quichotte. Alors que l'œuvre originale raconte principalement les aventures de ce chevalier à la triste figure et de son fidèle serviteur Sancho. Haut en couleur et plein de vivacité, ce spectacle permettra au public d'apprécier la virtuosité technique des danseurs et le charme des danses folkloriques espagnoles associées à la danse classique. Voilà, cette édition de Bon Plan de Sortie est terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijeon à la rédaction, avec Yoon Umi à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.